Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Tudiech avec vous. Le Monde Aujourd'hui, deuxième édition, il est 18h30 en temps universel. Nous sommes le vendredi 28 avril 2017, au sommaire. Le pape François en visite au Caire pour soutenir la minorité chrétienne, cible d'attaques terroristes en Égypte. En République démocratique du Congo, des affrontements entre factions rivales d'une milice à l'est du pays a fait au moins 29 morts selon les autorités locales. En Tanzanie, le président Magufuli renvoie 10 000 fonctionnaires. Ils étaient soupçonnés d'avoir présenté de faux diplômes pour se faire embaucher. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson demande à la communauté internationale d'isoler la Corée du Nord, mais n'exclut pas un dialogue direct entre Washington et Pyongyang. Et puis tout à l'heure, l'actualité économique et les sports. Mais tout de suite, le journal. Le pape François a entamé aujourd'hui une visite de 2 jours en Égypte, un voyage pour l'unité et la fraternité, selon le pontife. Il s'agit aussi pour le pape d'apporter à travers ce voyage son soutien à la minorité chrétienne, cible d'attaques djihadistes. John Lyndon.
Placée sous haute sécurité, la visite éclair du pontife argentin, la première dans le plus peuplé des pays arabes, intervient 3 semaines après 2 attaques contre des églises coptes orthodoxes qui ont fait 45 morts et ont été revendiquées par le groupe État islamique. C'est un voyage d'unité et de fraternité, moins de 2 jours, mais très intense, a dit le pape aux journalistes dont l'avion l'amenant au Caire. Il y a une attente spéciale du fait que l'invitation est arrivée du président de l'Égypte, du patriarche des coptes catholiques et du grand imam d'Al-Azhar, a-t-il ajouté. Aussitôt après son arrivée, le pape François a eu un entretien privé avec le président Abdel Fattah al-Sissi. Un tête-à-tête était également prévu avec le pape copte orthodoxe et le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed al-Tayeb. La visite du souverain pontife vise d'ailleurs à réchauffer les relations entre Al-Azhar et le Vatican, qui s'étaient crispées après des propos controversés en 2006 du pape Benoît XVI, semblant associer islam et violence.
La justice sud-africaine a inculpé aujourd'hui un homme de 33 ans, accusé de vouloir assassiner des membres du gouvernement et des personnalités qui auraient bénéficié des nombreux scandales de corruption qui agitent le pays depuis des mois. Selon certaines informations publiées par les médias locaux, le président Jacob Zuma ainsi que des membres de la famille de l'homme d'affaires Gupta liés au pouvoir figuraient sur sa liste. Le président tanzanien John Magufuli a licencié aujourd'hui près de 10 000 fonctionnaires. Bagassi Kourai sont accusés d'avoir falsifié les qualifications académiques pour obtenir leur emploi.
Ces fonctionnaires ont reçu 15 jours pour quitter leur emploi ou risquer une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 7 ans. Dans la capitale Dodoma, Magufuli a décrit les 9 932 fonctionnaires comme des voleurs et des voleurs à l'étalage. Il leur a ordonné de disparaître immédiatement de leur poste de travail. Selon la société de presse, ces fonctionnaires ont été mis en cause par une enquête indépendante qui a cherché à déterminer la validité des documents académiques des agents publics en Tanzanie. Cette enquête faisait suite à une répression à l'échelle nationale contre les travailleurs fantômes dans la fonction publique. Depuis son élection en 2015, Magufuli a renforcé sa réputation dans la lutte contre la corruption avec des décisions que beaucoup considèrent comme visant à améliorer la prestation des services.
Le président du Burkina Faso, Roch Marc-Christian Kabore, a nommé de nouveaux chefs à la tête de l'armée et de la gendarmerie, 3 mois après la nomination d'un nouveau chef d'état-major général. Ces nominations surviennent alors que les forces de sécurité semblent incapables d'enrayer la multiplication des attaques djihadistes dans le nord du pays, frontalier du Mali. Le 12 décembre, 12 militaires avaient été tués lors d'une attaque djihadiste contre un détachement de l'armée à Nassoumbou, dans la commune de Djibo, à une trentaine de kilomètres de la frontière malienne. Nous y reviendrons dans la partie magazine. En Guinée, la tension est toujours vive dans la ville minière de Boké, après 2 jours de violence. Des jeunes, pour la plupart, la libération de manifestants arrêtés par la police. Une personne a été tuée par balle. Les populations ont violemment manifesté après qu'un jeune conducteur de mototaxi a été tué dans un accident avec un camion de transport de bauxite. Le président sénégalais Macky Sall s'est rendu aujourd'hui dans le village de Betenti, dont les 21 personnes qui ont péri dans un naufrage cette semaine sont originaires. Monsieur Sall a annoncé une indemnisation de 2 millions de francs CFA, soit plus de 4 500 $ pour chacune des victimes, et 500 000 francs, soit 1 200 $ pour les rescapés. Le pays a vécu un autre drame 2 semaines plus tôt, lorsqu'un incendie a tué 29 personnes dans le sud-est du pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde, c'est le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson qui met la pression ce vendredi au Conseil de sécurité sur la Corée du Nord en exhortant la Chine à contrôler son allié. Nathalie Barge.
Rex Tillerson a affirmé que toutes les options devaient rester sur la table face à la Corée du Nord. La menace d'une attaque nucléaire nord-coréenne sur Séoul ou Tokyo est réelle et c'est probablement une question de temps avant que la Corée du Nord développe la capacité de frapper le territoire des États-Unis, a déclaré le chef de la diplomatie américaine qui préside une réunion exceptionnelle du Conseil de sécurité. Dans une interview à la radio publique américaine NPR diffusée ce matin, le chef de la diplomatie américaine a dit que Washington n'excluait pas un dialogue direct avec Pyongyang. M. Tillerson a par ailleurs exhorté la Chine à user de son levier économique contre son allié pour le contraindre à arrêter ses programmes nucléaires et balistiques. Plus tôt, son homologue chinois Wang Yi avait estimé que le dialogue avec Pyongyang était le seul bon choix pour résoudre la crise. Pour sa part, la Corée du Sud a balayé les propos du président américain Donald Trump, estimant que Séoul devait payer pour un bouclier antimissile en cours d'installation. Les termes de l'accord de sécurité entre les deux pays restent inchangés, a rétorqué le ministère sud-coréen de la Défense.
Des heurts ont opposé aujourd'hui jeunes Palestiniens et soldats israéliens en Cisjordanie occupée lors de la journée hebdomadaire de mobilisation dédiée aux grévistes de la faim dans les prisons israéliennes. Au 12e jour de cette grève, toujours suivie par 1500 détenus, le CICR a annoncé avoir rendu visite à une partie des grévistes de la faim. Certains d'entre eux, dont Marwan Barghouti, leur meneur, condamné à perpétuité, sont dans un état de santé dangereux, selon des responsables et défenseurs des droits de l'homme palestinien. L'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, étudie 45 attaques chimiques présumées en Syrie depuis mi-2016. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui son directeur, Ahmed Ouzoumkou. Il existe une longue liste d'allégations concernant l'utilisation d'armes chimiques rapportées à l'OIAC, a-t-il expliqué à des journalistes. Selon lui, durant la deuxième moitié de 2016, 30 incidents différents et depuis le début de l'année, 15 incidents séparés, soit un total de 45. En France, la campagne du second tour de la présidentielle bat son plein. La candidate d'extrême droite, Marine Le Pen, a appelé aujourd'hui les électeurs de la gauche radicale à faire barrage à son rival centriste Emmanuel Macron. Mais cet appel a aussitôt été qualifié de petite manœuvre par le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon, candidat de la France soumise, arrivé quatrième au premier tour du scrutin avec plus de 19% des voix, a refusé de donner une consigne de vote à ses partisans. Nombre d'entre eux veulent s'abstenir le 7 mai au motif qu'ils refusent de choisir, je cite, entre la peste et le choléra. La Grande-Bretagne n'est pas encore sortie de l'Europe, que la bataille entre les 27 de l'Union européenne se profile déjà sur les sièges des agences européennes actuellement basées à Londres. Le sort des deux agences très convoitées, celle des médicaments, EMA, et l'autorité bancaire européenne, EBA, sera évoqué demain lors d'un sommet à Bruxelles. Selon différentes sources, 26 pays sont intéressés pour abriter l'EMA et 7 pour l'EBA. La police italienne affirme avoir aidé l'Allemagne à démanteler une cellule radicalisée basée à Berlin et composée de 11 membres, dont certains étaient en contact avec Anis Amri, l'auteur présumé de l'attentat contre le marché de Noël de Berlin. L'opération fait suite à l'interpellation début décembre en Italie de Lutumba Kanga et Soufiane Amri, un Congolais et un Marocain, considérés comme disposés à accomplir des actes violents. Les deux hommes sont soupçonnés de participation à l'association terroriste internationale État islamique et de financement des activités de l'État islamique à travers des collectes d'argent en Allemagne. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Jacques Aristide.
Le Bénin a temporairement suspendu l'importation des viandes et des produits à base de viande en provenance du Brésil, pays secoué par un scandale de viande avariée. Un arrêté interministériel précise que c'est par mesure de précaution et de préservation de la santé. L'interdiction touche également le transport de viande congelée, toutes origines confondues, par les frontières terrestres. La décision du gouvernement béninois intervient après les mesures de contrôle prises par la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Le Rwanda prévoit d'augmenter les dépenses publiques de 7% au cours de l'exercice financier 2017-2018 à 2,53 milliards de dollars. Lors de la présentation de son projet de budget aujourd'hui au Parlement, le ministre rwandais des Finances, Claver Gatete, a déclaré que 17% du budget serait financé par les donateurs, le reste provenant de la dette et des recettes publiques à la hausse grâce à l'exportation du thé et aux revenus miniers. Le budget prévoit de financer la présidentielle du 4 août qui verra le président Paul Kagame briguer un troisième mandat de 7 ans. Signe encourageant pour le Nigeria dont l'économie connaît des difficultés depuis 2 ans. D'après la banque centrale du pays, les réserves en devises étrangères se sont élevées à 30,80 milliards de dollars à la date du 26 avril 2017, soit leur niveau le plus haut depuis septembre 2015. Cette remontée des réserves de change est attribuée à l'augmentation des prix du pétrole sur les marchés internationaux, de même qu'à l'eurobond nigérian émis le mois dernier.
Place au sport à présent avec vous, Bagassi Koura. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
En football, les acteurs maliens se mettent d'accord?
Oui, un accord a été obtenu hier entre les acteurs de la crise du football au Mali. Au terme de négociations, le ministre des Sports a accepté d'annuler sa décision de dissolution de la FEMAFOOT. Boubacar Baba Diarra est le nouveau président de la Fédération malienne de football. Il devrait saisir dans un bref délai la FIFA pour la levée des sanctions contre le Mali. L'accord de sortie de crise est en 6 points. Il prévoit notamment la levée donc des suspensions contre certains responsables de ligue de football, le retrait de la plainte du collectif des clubs et ligues, la mise en place d'un nouveau secrétariat général dirigé par le comité de normalisation avant le 5 mai prochain.
Zinedine Zidane a son mot à dire dans la présidentielle en France.
Oui, l'icône du football français a appelé vendredi à éviter au maximum le Front National lors du second tour de la présidentielle, opposant la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen et le centriste Emmanuel Macron. Les extrêmes, ce n'est jamais bon, a déclaré l'actuel entraîneur du Real Madrid à l'occasion d'une conférence de presse d'avant-match. La candidate d'extrême droite Marine Le Pen a rétorqué ce soir qu'avec ce qu'il gagne, il n'était pas étonnant qu'il vote Emmanuel Macron.
Football toujours, mais cette fois en Angleterre, le championnat d'Angleterre.
Oui, c'était hier soir. Manchester City et Manchester United se sont séparés par un match nul 0-0 à l'issue de 97 minutes de jeu. C'était un match en retard de la 26e journée du championnat.
Et puis le président de la Fédération de football de l'île de Guam, suspendu par la FIFA.
Oui, Richard Lai, qui a plaidé coupable devant un juge américain d'accusation de corruption, a été suspendu provisoirement par la FIFA pour 90 jours. Cette suspension peut être prolongée de 45 jours dans l'attente d'une décision définitive.
Et en tennis, faites-nous un point sur le tournoi de Barcelone.
Oui, le Britannique Andy Murray, numéro 1 mondial, s'est qualifié ce vendredi pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Barcelone après s'être imposé au forcé 2-6, 6-4, 7-6 devant l'Espagnol Albert Ramos au 19e mondial. Son bureau à Monte Carlo la semaine dernière, Murray a bataillé 2h59 minutes avant de l'emporter à sa deuxième balle de match sur un retour trop long de son adversaire. Murray défiera samedi en demi-finale du tournoi barcelonais l'Autrichien Dominique Thiem qui est numéro 9 mondial.
Et pour terminer, les résultats des playoffs en NBA, le championnat de basket nord-américain.
Eh bien, hier soir en conférence Est, Toronto a éliminé Milwaukee, 4 victoires contre 2 en battant les Bucks 92 à 89. Dans la conférence Ouest, de son côté, San Antonio a éliminé Memphis, 4 à 2 également, en battant les Grizzlies 103 à 96.
C'était Bagassi Koura, merci.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. C'est Le Monde aujourd'hui, deuxième partie. Place maintenant au dossier du jour. Nous commençons avec une affaire qui fait grand bruit au Cameroun. Trois hauts dignitaires religieux anglophones de l'Église catholique, parmi lesquels l'archevêque de Bamenda, sont poursuivis en justice. Un consortium des parents d'élèves les accuse d'avoir volontairement fermé les établissements scolaires relevant de l'ordre de l'enseignement catholique dans les villes de Bamenda et Kumbo pendant la crise anglophone. Réaction des autorités de cette église, recueillie à Yaoundé par Emmanuel Jules Ntap.
Procès fantôme, la vie est sans équivoque pour l'archevêque de Bamenda, Mgr Cornelius Fontaine, et soi, appelé à comparaître dans l'affaire. Les plaignants qui réclament 150 millions de francs CFA, de dommages et d'intérêts, sont selon l'archevêque de Bamenda des parents fictifs. Du coup, l'archevêque de Bamenda s'interroge sur les véritables mobiles de ce procès. Mgr Cornelius Fontaine et soi.
Nous nous demandons d'où vient l'accusation, qui est notre adversaire et pourquoi pas venir à nous pour qu'on en parle avant même ça. Donc ce sont des choses qui sont curieuses. Pour nous, nous sommes complètement en paix.
Au plus fort des revendications des avocats et enseignants anglophones, la conférence épiscopale de Bamenda, dirigée par Mgr Cornelius Fontaine, avait trouvé des origines politiques à la crise. Une opinion retenue contre lui par le consortium des parents qui parlent d'incitation à la grève. Mgr Cornelius Fontaine reste campé sur sa position et ne tremble pas face à un tel chef d'accusation.
C'est la crise politique, sociale est la cause du problème. Nous avons écrit un mémorandum pour expliquer pourquoi c'est la cause de la crise. Et ils nous accusent que parce que nous avons dit ça, nous avons accusé l'État d'être la cause du problème. Et les gens ont des doléances, il faut les écouter.
Des sources annoncent qu'au juin prochain, l'ouverture de la première audience contre les trois évêques anglophones à Bamenda. Le président de la conférence épiscopale nationale, Mgr Samuel Kleda, archevêque de Douala, préconise plutôt une autre approche dans cette affaire.
Au niveau où nous sommes, il ne sert plus à rien de revenir sur cette histoire. Ce qui est important à l'heure où nous sommes, c'est de chercher ce qui construit et non ce qui divise.
Le sujet est préoccupant au Cameroun. Même le représentant du Vatican s'est prononcé face aux journalistes, Mgr Pioro Piopo, nonce apostolique au Cameroun.
Tous les évêques sont en communion. Nous devons toujours aller de l'avant tous ensemble, main dans la main, dans le dialogue et dans le travail commun pour faire grandir notre beau pays comme il mérite, en toutes et en chacune de ses composantes.
Hormis les évêques de Bamenda, deux autres évêques de la région du Sud-Ouest, un prêtre et un pasteur de l'église presbytérienne camerounaise, sont également poursuivis par un consortium de parents pour incitation à la grève consécutive à l'arrêt des activités scolaires dans leurs établissements depuis novembre 2016. Yaoundé, Emmanuel Jolentap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
De nouveaux chefs militaires ont été nommés à la tête des principales institutions militaires du Burkina Faso. Rochmar Christian Kabore a procédé à une réorganisation des forces armées nationales à travers 6 décrets, dont celui annonçant le remplacement du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, Touandaba Koulibaly. Des détails à Ouagadougou avec notre correspondant Issa Napon.
Les Burkinabés se sont réveillés ce matin avec de nouveaux chefs militaires au poste stratégique du commandement militaire national. Au total, 6 institutions ont connu des changements selon les décrets signés hier par le président de la République, et cela dans le cadre de la réorganisation du commandement des forces armées nationales. Rochmar Christian Kabore a procédé ainsi à d'importants changements dont le plus emblématique est le départ du patron de la gendarmerie nationale, Touandaba Koulibaly, qui avait joué un rôle central lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014, ainsi remplacé
à la tête de la maréchaussée par le colonel Marie-Omer Tapsoba. D'autres changements et pas de moindre, l'état-major de l'armée de terre voit venir à sa tête le colonel-major Léon Traoré quand l'armée de l'air reconnaît son nouveau patron, le colonel Souleymane Ouédraogo. Des changements qui n'intriguent pas du tout cet ancien député du Conseil national de transition, CNT, et président des citoyens africains pour la Renaissance, Hervé Ouattara.
Je crois que si le président du FASO a pris cette décision, lui seul peut dire avec certitude pourquoi il l'a fait. Mais ce qui est important, ce n'est pas le changement des hommes à la tête, mais c'est l'efficacité des stratégies que ces hommes pourraient mettre en place pour la sécurité de notre pays, afin de sécuriser les Burkinabés. Alors, comme vous savez, il y a beaucoup de choses aujourd'hui au Burkina que nous devons éclaircir. Vous êtes sans ignorer que le procès contre Blaise Compaoré et ses anciens ministres a démarré. Alors, on a appris aussi en tant qu'organisation de la société civile qu'il y a beaucoup de militaires, hein, d'hommes de tenue qui ont des choses à dire, qui savent beaucoup. On ne sait pas si c'est lié, mais ce qui est sûr, c'est que nous attendons de voir. Peut-être que le départ est lié au fait que le jugement de Blaise Compaoré et de ses ministres a été amorcé. Quoi qu'il en soit, c'est que nous allons aboutir à quelque chose de bien pour le Burkina Faso.
Les autres nominations concernent le groupement central des armées, dont le nouveau commandant est le colonel-major Moïse Minungu, l'intendance militaire qui voit arriver comme directeur central l'intendant-colonel-major Jean-Baptiste Parkouda, et enfin, à la tête de la direction centrale du matériel des armées, le colonel Salif Tingeri. Cette série de nominations a finalement surpris bien les citoyens, dont les sentiments convergent en majorité vers une meilleure sécurité pour le pays.
Juste après la prise du pouvoir du MPP, on s'attendait à ce qu'on remanie tout. Ce n'est pas venu. Et au moment où l'opération Panga est en train de se mener, on s'est dit quand même que l'équipe qui était là est en train de faire un travail. Chose. Bon, la nouvelle est tombée. Mais je suppose que bon, ceux qui l'ont fait, certainement, c'est dans un but d'améliorer le travail et que la sécurité du pays se renforcera.
Je crois que ces anciens ont montré qu'ils n'arrivaient pas réellement à maîtriser le pays. Peut-être avec ces nouveaux changements, peut-être on arrivera à sécuriser bien ce pays.
C'est clairement un nouveau type de leadership qui est attendu des nouveaux promus au moment où le traitement de certains militaires et des familles de militaires morts au front a souvent fait des gorges chaudes. Au moment également où le combat pour la sécurité reprend du poil de la bête avec la riposte menée en ce moment contre les terroristes. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Suite à présent de notre série de reportages sur la situation humanitaire autour du lac Tchad. Ce soir, des réfugiés nigérians qui ont fui Boko Haram pour le Tchad. Nicolas Pinault, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Tchad, les a rencontrés.
À quelques kilomètres avant d'arriver à Bagassola, le camp de Dar es-Salaam, le drapeau tchadien flotte au-dessus des 8500 Nigérians qui y ont trouvé refuge. Tous, ou presque, racontent la même histoire, les attaques des djihadistes en pleine nuit, des villages brûlés, des vies arrachées. Eli Wakassou est originaire de Koukawa, dans l'état de Borno.
Environ des 24 heures comme ça du matin, la Boko Haram a attaqué leur village. C'est quoi l'entrée de filles, j'ai venu avec, ici avec mon enfant. Il y a cinq enfants et deux femmes. Et mon père avec mon petit frère, tous, ils sont sortis par Medouri. Moi, j'ai venu ici au Tchad. Il y a mon grand-fils même, on l'a tué à cette attaque-là. On a brûlé, les Boko Haram a brûlé tout le village qu'on est dedans.
Dans ce camp, l'aide humanitaire arrive, mais les réfugiés estiment que ce n'est pas assez. Beaucoup n'attendent qu'une chose, traverser la frontière dans le sens inverse et retrouver le Nigeria. C'est l'avis de Kaka Aboubakar. Cette femme est originaire du village de Baga.
Avant, au Nigeria, on faisait du commerce, on pouvait manger et boire comme on voulait. Mais ici, on n'a rien, on ne fait rien. On nous distribue seulement des vivres, mais ce n'est pas assez chaque mois. S'il y a la paix, même demain, on rentre chez nous au Nigeria.
Du côté des autorités tchadiennes, on demande aux agences humanitaires d'aider les réfugiés et les déplacés à faire de l'élevage ou de l'agriculture pour subvenir à leurs besoins et ne pas dépendre que de l'aide humanitaire. Djimoya Swapebe est le préfet du département de Kaya, région du lac.
Il est question de dire à nos partenaires humanitaires, est-ce qu'il faut continuer à garder ces gens comme ça, attendre à ce qu'on leur apporte à manger? Nous disons non. Ce que nous demandons maintenant, c'est de faire en sorte que des activités de résilience puissent être prospérées au profit de ces populations. C'est à travers cela que cette population pourra se sentir à l'aise.
Au camp, Joseph Koda, l'entraîneur de l'équipe de football, surveille les enfants de Dar es-Salaam taper dans le ballon pour se changer les idées et oublier un peu leur situation.
Le travail que je fais avec les enfants, c'est de leur faire oublier un peu ce qu'ils vivent. Avec le ballon, l'enfant s'amuse et ne pense pas à la vie au camp. Ça leur change les idées et à moi aussi.
À Dar es Salaam, les réfugiés espèrent que les opérations de la force multinationale menées contre Boko Haram dans les îles du Lac Tchad leur permettront de rentrer bientôt chez eux. Depuis Bagassola au Tchad, Nicolas Pinault, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Demain samedi, ce seront les 100 premiers, marquera les 100 premiers jours au sommet de l'État de Donald Trump. Maître Jemal Taleb, avocat d'affaires à Paris, et Jean-Emmanuel Pondy, professeur de sciences politiques à l'Institut des relations internationales du Cameroun, ont pris part à une édition spéciale de notre émission Washington Forum, consacrée aux 100 premiers jours du président Trump. Dividico.
Au départ de son aventure présidentielle l'année dernière, les premiers avis sur ses partisans étaient simples. Il s'agirait d'électeurs mal informés, tombés sous le charme d'un acte de cirque moderne, orchestré par un homme qui adore les médias et dont les cheveux attirent la curiosité.
L'approche à l'Afrique est une approche purement budgétaire, se traduisant par les mesures qui vont consister à diminuer les crédits très fortement à l'agence USAID, par exemple. C'est vraiment une mesure de courte vue. Cela ne tient pas compte de ce que l'Afrique est en train de devenir. L'Afrique, ce n'est plus seulement le continent que l'on assiste, ce n'est pas simplement la crise humanitaire permanente, c'est aujourd'hui un continent d'opportunités. Et donc, la continuation du soutien à l'Afrique, ce n'est que le développement de ces opportunités qui sont aujourd'hui la promesse du continent africain.
Au départ de son aventure présidentielle l'année dernière, les premiers avis sur ses partisans étaient simples. Il s'agirait d'électeurs mal informés, tombés sous le charme d'un acte de cirque moderne, orchestré par un homme qui adore les médias et dont les cheveux attirent la curiosité. Mais le phénomène Donald Trump s'est avéré être plus qu'une mode. Beaucoup croient aussi que Trump a joué la carte raciale pour attirer ses électeurs. En décembre, une analyse du Washington Post a révélé que les supporters de Trump étaient plus des hommes blancs et pauvres. Mais aujourd'hui, après 100 jours à la tête du pays le plus puissant du monde, les analystes croient savoir qui sont vraiment les supporters de Donald Trump. Quatre éléments principaux permettent de les classer. Premier élément, ils n'ont pas fait d'études universitaires. Durant les primaires, le constat qui s'est dégagé est celui de l'absence d'un diplôme d'études universitaires chez bon nombre de partisans de Trump. En analysant, par exemple, la victoire de Trump dans le New Hampshire, l'on se rend compte que le facteur qui explique la plus grande partie de la variance dans le soutien de Trump dans cet État était l'éducation. De fait, les hommes qui n'ont pas fait d'université ont été piétinés par la mondialisation, la dissolution des emplois manufacturiers et d'autres facteurs depuis quelques décennies. Autre élément, les partisans de Trump ne pensent pas qu'ils ont une voix politique. Beaucoup d'électeurs qui n'ont aucune idée de ce que le gouvernement fait étaient 86% plus susceptibles de préférer Trump. Ce sentiment d'impuissance et d'absence de voix constitue un meilleur facteur du soutien de Trump que l'âge, la race, le niveau de scolarité, les revenus, les attitudes envers les musulmans, les immigrants illégaux ou même l'identité hispanique. Plusieurs supporters de Trump nourrissent aussi une certaine haine envers les étrangers vivant aux États-Unis. Cette réaction s'est manifestée lorsque Donald Trump a promis de fermer les mosquées, de tenir une base de données sur les musulmans et de poursuivre les immigrants illégaux. Enfin, beaucoup d'analystes pensent que les partisans de Donald Trump sont de la catégorie d'Américains vivant dans des régions du pays où le ressentiment racial est le plus prononcé. Et depuis l'arrivée du président Trump à la Maison-Blanche, beaucoup de ses partisans pensent que leur point de vue est effectivement respecté, mais aussi qu'ils se sentent de nouveau attaqués, peut-être même plus qu'auparavant.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Sim Sloumami. À la console, Souleymane Tarawale. Avec vous, c'était Anastasie Tudiège. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restons en contact via Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.